Retrouvez Dear Veil People tous les jeudis à midi 10 et 18h10 sur les ondes de Radio FM+, la radio où la différence nous rassemble. Bonjour à tous, chers auditeurs sur Dear Veil People. C'est la première mission de 2021. J'espère que vous avez réussi à passer de bonnes fêtes malgré la situation avec le Covid. Et aujourd'hui, pour commencer 2021, j'ai décidé de commencer l'année en fanfare. On a fini 2020 en parlant des relations, relations familiales, relations amoureuses, relations amicales. Pour ce début d'année, chers auditeurs, je vous propose de vous intéresser à la question de la sexualité pour les personnes en situation de handicap. On va enlever de suite ce tabou, cette idée reçue de la sexualité. Il y en a, il n'y en a pas. En effet, il y en a. Et pour entamer cette thématique, j'ai le plaisir de recevoir deux accompagnants sexuels avec moi pour parler de leur pratique. Pour commencer, j'ai Cybèle L'Espérance avec moi. Bonjour Cybèle.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va, ça va. Et toi?
Mais oui, écoute, ça va très bien, merci. Et j'ai aussi le plaisir de recevoir Fabrice Flagel.
Bonjour Fabrice. Damien. Bonjour Cybèle et bonjour à tous.
Comment vas-tu?
Eh bien, je vais et je viens. Je vous laisserai faire la suite.
Très bien, très bien. Ça surveille, ça revient, c'est fait de tout peut être rien.
C'est bon, ça met dans l'ambiance quand même.
Voilà. Oui, ben, il faut entamer cette année 2021 sur les chapeaux de roue. Pour commencer, on va peut-être essayer de commencer par les bases. Je pense que beaucoup d'auditeurs se posent la question. C'est quoi un accompagnant sexuel?
Ah. Vas-y, c'est bien. Honneur aux dames.
On a un peu des définitions qui peuvent varier hein, d'un praticien, d'une praticienne à l'autre. Moi, je considère que déjà, on est des travailleurs, travailleuses du sexe. Hein, c'est-à-dire qu'on propose un service sexuel contre rémunération. De l'accompagnement sexuel, il s'agit d'une démarche de mise en capacité, de prise de confiance. On parle d'accompagnement parce que effectivement, on accompagne les gens vers quelque chose que eux souhaitent. Ils souhaitent aller vers quelque chose qui peut être de l'éducation, qui peut être de la prise de confiance, qui peut être des fois juste de débloquer hein, quelque chose, prise d'expérience, répondre à des questions, essayer aussi de connaître mieux son corps, de connaître les façons de donner du plaisir à autrui pour que lorsqu'il y a éventuellement rencontre avec quelqu'un qui soit un intérêt relationnel ou sexuel, qu'il y ait un peu moins d'enjeux autour de cette rencontre. Et toi, Fabrice?
Je rajouterais, avant tout, dans ma démarche, c'est surtout répondre à une énorme frustration sexuelle ou affective. Et je rencontre essentiellement donc des femmes qui n'ont pas eu depuis très longtemps ou qui n'ont jamais eu de sensualité, voire de sexualité. Et leur demande est vraiment de découvrir cet univers, de découvrir leur corps, de découvrir des sensations qu'elles ont perdues parce qu'un accident de la vie leur a fait perdre la relation avec le compagnon avec qui elles étaient. Et puis d'autres qui n'en ont pas forcément eu, ou en tout cas très très peu. Donc voilà, c'est en parallèle de ce que tu viens de dire.
En effet, déjà, on commence à sentir les petites différences entre vos deux pratiques. Cybèle, tu disais que ça pouvait être à plusieurs niveaux d'éducation, de prise de confiance, enlever aussi des frustrations, peut-être des fausses idées sur sa capacité à faire du sexe ou non. Finalement aussi, ça revient à cette question, c'est quoi faire du sexe peut-être?
C'est vrai que moi, j'axe beaucoup ma pratique sur les questions de plaisir plutôt que de côté thérapeutique. En tout cas, je le vois comme ça. Je vois comme dédramatiser un petit peu la sexualité, de pouvoir Déjà, quand on se sent un peu compétent pour écouter son propre plaisir, quand on fait face à des injonctions à la performance, hein, je pense que les personnes en situation de handicap n'y échappent pas à ça. Il y a aussi la normalisation par la sexualité, de se sentir, la sexualité, c'est une composante importante de l'expérience humaine, donc ça permet de se sentir plus normal pour beaucoup de personnes. Donc voilà, c'est plein d'échelles hein, où les gens, il y a à boire, à manger, on peut dire. Certaines personnes prennent des éléments, d'autres non. Ça dépend vraiment de leurs besoins. Et il y a même, effectivement, j'en ai pas parlé au départ, mais il y a des personnes pour qui l'accompagnement sexuel est presque la seule option au final, parce que les perspectives de rencontre deviennent extrêmement limitées, parce que voilà, il y a moins cette démarche de leur part d'accompagnement ou d'être accompagné. Et c'est aussi un piège potentiel des personnes accompagnées qui trouvent que c'est une béquille intéressante pour leur vie affective et sexuelle et qui finissent par s'y emprisonner un petit peu.
Oui, tout à fait. Je dirais que pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi, dans ma pratique, le plus difficile, c'est effectivement de faire attention à l'attachement qui va se créer, le lien qui va se créer, qui est important et qu'il faut vivre, mais tout en sachant garder vraiment à l'esprit que ça reste une démarche professionnelle et qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ça aille plus loin dans l'affect. Même si il est arrivé, on a des collègues que l'on connaît qui sont tombés amoureux de leur accompagné et qui sont ensemble en couple après. Hein, ça peut arriver aussi. Hein, mais c'est pas le but. Hein, au départ, c'est vraiment pas le but. Et ça, c'est en tout cas moi dans ma pratique, comme j'accompagne surtout que des femmes. Eh bien, ça fait partie de la grosse démarche de prévention, enfin de discussion en amont, parce qu'avant de se rencontrer, on passe beaucoup de temps à discuter. Et quand on décide de se rencontrer, j'essaie d'être sûr le plus possible que la personne a bien à l'esprit que ça restera une démarche, une approche professionnelle. Mais on peut se faire avoir quand même des fois après, et donc il faut quand même toujours rester vigilant, toujours remettre un peu le cadre de la démarche. Et d'ailleurs, je peux déjà en parler, c'est heureusement que c'est une action professionnelle payante, parce que sinon, ce serait très difficile de faire la différence entre notre pratique et la vie privée.
Je comprends donc finalement, ça revient aussi à cette grande question, ce grand débat qu'on entend régulièrement d'avoir une distance professionnelle, notamment entre une équipe soignante et son patient. C'est un peu similaire pour vous ou vous le définiriez différemment?
Vas-y. Je pense que ça peut être différent parce qu'on travaille dans l'intime. Et déjà, donc les barrières ne sont pas les mêmes. Donc le cadre doit être posé un petit peu différemment. Et ça demande souvent des clarifications, même des clarifications en cours de route. On parle beaucoup aussi de consentement. On parle aussi d'assentiment. C'est-à-dire, on peut consentir à des choses, mais l'assentiment, c'est de dire oui, ça va encore et je veux qu'on continue. Ça va au-delà. Hein. C'est est-ce que ça va bien? Est-ce que c'est OK? Est-ce qu'on est rendu à cette étape-là? Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment un cadre qui est distinct de tout ce qui est le cadre du soin, selon moi, parce qu'on est dans l'intime, parce qu'on est dans le plaisir. Et ça demande parfois des recadrages lorsqu'on a le sentiment que ça devient un peu moins clair pour les gens. Donc, voilà, ça permet de s'assurer qu'on est toujours dans ce cadre qui est axé vers la mise en capacité, le plaisir, et non plus dans quelque chose qui risque de faire souffrir encore plus les personnes.
Oui, tout à fait. C'est exactement la question et la démarche que j'ai en permanence, de me demander toujours si ce que j'apporte est plus bénéfique que le contraire. Et j'ai eu des fois des doutes et il a fallu en discuter pour être bien sûr que si on continuait, c'était vraiment pour apporter un plus et non pas créer une dépendance qui allait devenir insupportable à la longue, quoi.
Moi, j'ai carrément eu des ruptures avec des personnes accompagnées, donc des moments où j'ai dû, après de multiples tentatives de recadrage, de multiples échanges, remise de limites dans les séances ou entre les séances, il y a un moment où j'ai dû discuter avec ces personnes de l'arrêt de l'accompagnement contre leur gré à eux, même si j'essaie de rester au maximum dans le non-jugement. Si moi, je me rends compte, par exemple, que je suis de plus en plus inconfortable avec une personne ou avec la relation qui est avec la personne, je sais que je ne suis pas en train de rendre service à cette personne. Donc, c'est mieux pour moi d'arrêter de mettre fin à cet accompagnement.
Alors, c'est vrai que moi, ça m'est jamais arrivé d'être obligé de mettre une rupture. Et donc, voilà, ça, c'est la partie, je dirais, entre guillemets, à risque. Mais ce qui est important, je pense, d'en parler, c'est surtout les bénéfices, hein, de cette démarche. Moi, si je continue à faire cette démarche depuis 5 ans et que même s'il y a des fois, j'ai eu des doutes, bon, 99,9% des cas, ça a été bénéfique. C'est-à-dire, chaque personne que j'ai accompagnée, ça a été un changement, un bouleversement dans leur vie. Des fois, même une seule rencontre suffit. J'ai encore une expérience en septembre, là, une femme que j'ai vue en début septembre, et je sais, a priori, elle n'aura plus jamais besoin de moi. Ça a déclenché vraiment un déclic dans sa tête, ça lui a donné une confiance en elle. Ça faisait 3 ans qu'elle était sur des sites de rencontres, qu'elle n'arrivait pas à rencontrer elle rencontrait des hommes, mais elle n'arrivait jamais à passer à l'action, à l'acte, et les hommes fuyaient. Et là, comme par enchantement, après juste une rencontre, un accompagnement, elle a rencontré 2 hommes en un mois et elle a 2 relations en ce moment. Donc, rien que ça, pour moi, c'est le but de la démarche.
C'est une victoire aussi, je pense, pour vous. Et à côté de ça, quand il y a ce moment, on est obligé d'arriver à la rupture, d'arriver à cette solution un peu drastique, je dirais, ça doit être compliqué pour vous. Enfin, Fabrice, vu que ça t'est jamais arrivé, est-ce que tu y penses des fois? Qu'est-ce que tu dis?
Alors non, effectivement, ça m'est jamais arrivé. J'ai eu un seul cas où effectivement le lien était très fort. C'est une personne qui avait besoin de m'envoyer des SMS tous les jours. J'acceptais, mais je lui répondais pas tous les jours. Et effectivement, pendant 2 ans et demi, ça a été un peu lourd à gérer, mais je n'ai jamais voulu la lâcher. Et aujourd'hui, j'en suis récompensé parce qu'elle a rencontré quelqu'un. Et du coup, voilà, ça, le lien s'est coupé. En fait, on est toujours en lien amical. Elle peut toujours m'appeler si elle a besoin. Moi, je reste toujours en contact si on veut, amicalement. Et ça, pour moi, c'est super important. Et voilà, donc j'ai bien fait d'attendre parce que je voulais pas la lâcher. Je sentais que c'était vraiment quelqu'un qui était en souffrance et qui avait vraiment besoin d'une présence. Donc moi, ça me coûtait rien, hein, d'avoir ces messages tous les jours. C'était pas si lourd que ça. On se voyait une fois tous les 3 mois. Et voilà, aujourd'hui, elle a plus besoin de moi et c'est génial.
C'est vrai qu'on n'a pas du tout le même type de clientèle, hein, tout, même si moi je vois des femmes, voilà, c'est des expériences qui sont assez différentes. Sachant que je suis escorte par ailleurs, que moi je ne limite pas non plus ma vision de l'accompagnement sexuel au seul handicap, hein. Je vois des personnes qui ont vécu des violences conjugales, qui ont des dysfonctions érectiles ou d'autres problèmes de confiance en soi, de timidité, d'anxiété généralisée, des choses comme ça. Et en termes de volume d'accompagnement, c'est aussi voilà, je vois pas la même quantité de personnes. Et souvent les personnes qui viennent à moi, ben, pas souvent, mais en tout cas régulièrement, c'est des personnes qui ont aussi déjà eu affaire avec des travailleuses du sexe et ça s'est plus ou moins bien passé. Donc ils ont un peu ce plan B ou ce repli, voilà. Et on est plusieurs accompagnantes féminines dans la région où j'exerce, en tout cas dans la région plus près de Lyon. Et du coup, on peut aussi, et ça arrive, hein, d'échanger, de proposer un changement d'accompagnement sexuel pour voir si le courant passe mieux, si le bénéfice est meilleur avec une autre personne. Donc, c'est une proposition qui peut être faite.
Tu parlais justement de la différence de public, différence de pratique. Donc, toi, Cybèle, tu vois des hommes et des femmes. Fabrice, tu vois uniquement des femmes. Est-ce que dans vos pratiques, vous repérez des différences par rapport au genre ou pas du tout? Finalement, la pratique reste la même ou il y a des ajustements à faire?
Moi, je pense effectivement qu'il y a des différences. Déjà, personnellement, en accompagnant que des femmes, j'ai très peu d'accompagnement sur une année. Bon, alors c'est vrai que 2020, c'est un peu particulier, mais une année, je dirais, différente, en 2019, par exemple, je fais 4-5 accompagnements dans l'année, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec ce que Cybèle peut faire ou mes collègues féminines. Parce que les demandes féminines représentent à peine 2% des demandes. Donc forcément, c'est très différent à ce niveau-là. Et puis, du coup, peut-être que moi, ça me permet de m'impliquer un peu plus. Effectivement, il y a peut-être un lien qui se crée davantage, qui n'est pas possible si je faisais un accompagnement toutes les semaines ou tous les 15 jours, ce ne serait certainement pas le même lien. Et puis, la demande féminine... Et beaucoup, peut-être plus dans l'affectif. Souvent, les femmes qui font appel à moi au départ n'ont pas forcément besoin, en tout cas ne pensent pas forcément tout de suite à la démarche sexuelle. Elles ont surtout envie de créer un lien, de se trouver, aller manger au restaurant avec un homme ou même passer du temps. Alors, par exemple, moi, je peux passer la nuit complète avec les femmes que j'accompagne, ce qui est très rare. Et donc ça, déjà, des fois, ça leur suffit. Elles n'ont pas forcément besoin d'avoir un acte sexuel. Ça peut leur suffire simplement d'avoir la présence d'un homme plusieurs heures près d'elles. Et je pense que ça, c'est très différent avec ce que vit Cybèle.
Merci Fabrice, justement on écoutera ce qu'a à dire Cybèle sur cette thématique après notre pause musicale chez Auditoris. Aujourd'hui je vous propose le titre de Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On. Je pense que tout le monde connaît ce titre et je pense qu'il était un peu choisi d'avance pour cette émission. Bonne écoute chers Auditoris, à tout à l'heure. Et on se retrouve pour ce premier épisode de Dear Veil People de 2021 où nous parlons de la sexualité en situation de handicap. Et j'ai toujours plaisir d'avoir avec moi deux accompagnants sexuels, Fabrice Flagel et Cybèle L'Espérance. Juste avant la pause, nous avons parlé des différences de pratiques, notamment entre un client féminin et un client masculin. Nous avons pu écouter Fabrice. Cybèle, comment tu vois la chose, toi, à ton niveau? Est-ce qu'il y a des différences entre un client homme et une cliente femme?
Moi, c'est vrai que j'ai pas énormément de femmes en tout, hein, dans mes accompagnements, parce que, comme le disait Fabrice, c'est 2% environ des demandes. Et je crois qu'il y en a encore moins au niveau LGBT, en fait. Hein. Et on dit homme-femme, il y a sans doute des personnes trans dans le placard, des personnes non-binaires qui n'expriment pas forcément toutes ces particularités de genre. Moi, j'ai accompagné trois femmes en situation de handicap. Il y avait eu des personnes qui ont vécu des violences sexuelles et qui préféraient passer par une femme, pas forcément du coup quelqu'un qui se sent bisexuel ou lesbienne ou qui s'identifie comme ça, mais qui avait envie d'expérimenter d'abord dans un cadre entre femmes pour des raisons de sécurité, pour des raisons de confiance. Donc ça, c'est peut-être une particularité vraiment dans ma pratique. Pour le reste, c'est avec des hommes et comme je suis escorte par ailleurs, je vois beaucoup les choses dans un espèce de continuum entre l'escorting et l'accompagnement sexuel. Je pense qu'il y a pas mal d'hommes qui me contactent qui en fait veulent des escortes, hein, même s'ils sont donc en situation de handicap et qui présentent une demande à la passe. Ils ont envie d'un service sexuel ou comme je dis souvent, ils ont envie de ken. Et ça, c'est OK, hein. Je pense que c'est pour moi en tout cas, il n'y a pas trop de soucis. Je sais que d'autres accompagnantes sexuelles acceptent moins cette espèce de dynamique de consommation. Par contre, pour moi, à ce moment-là, je fais des adaptations au niveau du temps, mais pour moi, c'est clairement une prestation plutôt d'escorting. C'est un continuum, hein. Il y a vraiment des gens qui sont dans cette démarche de vouloir progresser, vouloir se donner un peu des ailes, se libérer de certaines charges. Moi j'ai accompagné un peu plus d'une centaine de personnes strictement en situation de handicap depuis mes débuts en juin 2018. Donc c'est effectivement pas tout à fait le même volume et ça ne compte pas les personnes valides. Après, tous ne me viennent pas de la passe, hein. Comme j'ai été médiatisée en février, il y a eu quand même une grosse vague de personnes qui m'ont contactée à ce moment, mais même avant par le bouche à oreille et lors de mes très rares tournées, parce que je fais parfois un peu de touring dans certaines villes comme Lille, Nantes, ça m'est arrivé d'en faire à Toulouse, un petit peu à Montpellier et plus Lyon. Hein. Moi, je rappelle que je suis basée à Chambéry à la base, donc en Savoie, et je me déplace surtout sur l'Isère, la Haute-Savoie. Mais rarement au-delà de ça. Même Paris, en fait, il y a très peu d'accompagnantes sexuelles, donc il y a des demandes. Donc forcément, je vois plus de personnes, même en dehors de la passe, quoi.
Pour continuer à parler un petit peu de votre public, on parle de situation de handicap, mais finalement, est-ce que c'est uniquement du handicap moteur ou finalement il y a plusieurs genres de handicap? La question, c'est l'accompagnement sexuel, c'est pour qui, on va dire, entre guillemets?
Alors, si je me permets de rencontrer, je vais peut-être en parler parce qu'en plus, je m'occupe des mises en relation pour mes collègues, donc je suis plus encore au contact des demandes. C'est vrai que globalement, l'accompagnement peut s'adresser à tout le monde, tout handicap confondu. Maintenant, il faut être effectivement conscient d'une certaine réalité. On a besoin, quand on parle de la notion de consentement, on a besoin d'être en face de quelqu'un où on est sûr de sa demande. Donc, c'est effectivement dans le handicap psychique, c'est pas toujours évident, même si des fois ça peut être la famille qui fait appel à nous. La demande de la famille parce qu'elle constate une frustration, un comportement qui commence à être difficile à gérer, mais on n'est pas forcément sûr du besoin et de la demande de la personne si elle ne peut pas l'exprimer clairement par écrit ou en verbal. Donc, en théorie, notre démarche peut s'adresser à tout handicap, mais dans la réalité, c'est vraiment du cas par cas. Et on étudie à chaque fois vraiment ce qu'on peut donner, ce qu'on peut offrir et ce que la personne attend. Il faut que ça corresponde. Et ça, ça fait partie de la démarche de mise en relation qui prend du temps. Et c'est pas parce qu'on fait une demande à la passe qu'on va forcément avoir une réponse positive pour plein de raisons. Ça peut être le lieu géographique, ça peut être la disponibilité, ça peut être une question d'âge, de feeling. Enfin bref, il y a vraiment plein de raisons qui peuvent faire que ça n'aboutit pas. C'est malheureusement le cas parce qu'on n'est pas très nombreux. Hein. Faut quand même avoir conscience que sur la France, on est à peine une vingtaine. Donc, ça fait vraiment très peu.
Sibel, peut-être tu veux rajouter
ouais.
quelque chose?
En fait, il faut être conscient aussi du cadre légal dans lequel s'inscrit l'accompagnement sexuel, qui est celui de la prostitution en France, hein, et que dans les définitions des lois sur le proxénétisme, la mise en relation de personnes est considérée comme du proxénétisme, même si elle se fait à titre bénévole. Et donc, il y a une espèce d'épée de Damoclès bon, qui pèse, on dirait, sur la passe, donc l'Association pour la promotion de l'accompagnement sexuel, pour laquelle Fabrice fait les mises en relation et pour lesquelles moi, je suis mise en relation occasionnellement. Il y a donc cette épée de Damoclès de dire, bah voilà, on est des proxénètes bénévoles, on s'en réclame parce que la cause nous semble juste dans l'accompagnement sexuel. Et c'est une des raisons qui font que la PASS se limite aux personnes en situation de handicap, où là, il y a une acceptation sociale, et il y a voilà, une cause qui a été portée par, disons-le, Marcel Nuss, hein, principalement, mais aussi les autres membres de la PASS pendant, bah, depuis 2014. Moi, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas référer des collègues, en fait. Hein. Je ne peux pas, moi, prendre le risque de dire, comme le disait à une certaine époque Marcel, venez me chercher. Voilà, moi, si je dis ça, ils vont venir me chercher. Je connais des collègues qui ont été condamnés pour proxénétisme parce qu'elles s'entraidaient, parce qu'elles partageaient les frais pour un appartement, par exemple.
D'accord. Impressionnant. Justement, ça me fait penser à une question aussi pour cette fin d'émission. Cette acceptation sociale sur l'accompagnement sexuel pour les personnes en situation de handicap, pour vous, est-ce une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce que ça nourrit pas le stigmate autour du handicap un petit peu, mais en même temps, c'est quelque chose de très important? Comment vous vous placez, vous, sur cette question?
Alors, si tu me permets, Sibel, je vais commencer. C'est sûr que moi, personnellement, dans l'absolu, ça pourrait. Enfin, c'est pas la solution idéale. C'est clair que les personnes que j'accompagne, si je leur souhaite qu'elles rencontrent quelqu'un, qu'elles n'aient pas besoin de passer par une prestation payante pour pouvoir retrouver de la confiance en elles, pour pouvoir se retrouver dans une situation où elles peuvent se débrouiller toutes seules face à une rencontre intime. Mais ça, c'est un beau discours, c'est un bel idéal, mais c'est pas la réalité. Et toutes les femmes que je rencontre sont dans une détresse terrible que je ne soupçonnais pas avant de découvrir cet univers. Et moi, je, par rapport à tous ceux qui sont contre cette démarche parce qu'ils considèrent que c'est de la prostitution, ce qui est vrai, et ils ont une diabolisation de la prostitution, alors que c'est pour moi indispensable dans notre société, et heureusement que c'est là, je me rends compte que voilà, toutes ces demandes sont vraiment des personnes qui sont au bout du rouleau, qui ont tout essayé, qui, ça fait des années qu'ils essayent de rencontrer, de trouver une solution pour se sentir mieux dans leur corps, au moins avoir des sensations de douceur, rien que ça. J'ai plein d'exemples de femmes qui ont été touchées sensuellement, qui ont attendu l'âge de 30, 35 ans ou 40 ans avant d'avoir un premier contact sensuel, juste une caresse, une douceur. Elles ne connaissaient que les contacts médicaux, ce que faisaient les aides médicaux à domicile pour les laver, les nettoyer le matin. Enfin, il n'y avait rien de sensuel, rien de douceur, quoi. Et ça, c'est énorme. Comment peut-on vivre comme ça, sans douceur dans sa vie, quoi, tout simplement. Rien que ça. Parce que des fois, ça ne peut être que ça, hein, la demande. Ça, c'est pas forcément sexuel, comme je vous le disais. Juste prendre dans les bras, embrasser, enfin, voilà, sentir de la chaleur humaine sincère. Et ben, ça se trouve pas comme ça, malheureusement. Et c'est dommage, hein, dans notre société, je trouve ça lamentable qu'on puisse pas se faire simplement des câlins ou avoir de la douceur facilement comme ça. Ben voilà, c'est la réalité de notre monde. Donc, c'est pas l'idéal, ça, j'en conviens tout à fait, et j'aimerais que ce soit autrement. Et c'est pour ça que si je continue, c'est que je me rends compte que des fois, une ou deux rencontres suffit pas pour reprendre confiance, et après, elles peuvent se débrouiller sans moi. C'est ça l'objectif, hein, c'est pas d'être dépendant pendant des années de l'accompagnement. Jusque-là, je vous dis, le seul exemple que j'ai eu a duré 2 ans et demi et elle a fini par trouver, à rencontrer quelqu'un. Donc, pour moi, pour l'instant, je suis à 100% de réussite, entre guillemets. Maintenant, voilà, hein, c'est mon expérience personnelle. C'est juste pour dire que ce n'est pas l'idéal, l'accompagnement, mais pour l'instant, vu le degré de facilité de rencontre dans notre société, et en plus, avec ce qui nous arrive en ce moment, c'est encore pire. Hein, on n'a pas le droit de se toucher, on n'a même plus le droit de se... Enfin, même pas de s'embrasser, pas de se toucher, enfin, c'est assez délirant. Donc là, c'est encore pire en ce moment dans la détresse affective et sexuelle. Et pas que du monde du handicap d'ailleurs. Hein. Moi, je travaille avec des valides au quotidien et c'est pareil, c'est de pire en pire en ce moment.
Si Ben, un dernier mot sur cette question?
Bah, moi, c'est vrai qu'en tant que militante pour les droits des travailleurs et travailleuses du sexe, ma solidarité va d'abord à cette cause, donc la cause des droits, des conditions de travail dans lesquelles s'exerce tout le travail du sexe sans distinction. J'ai l'impression que le cloisonnement, accompagnement sexuel, oui, effectivement, ça renforce d'une certaine façon un certain validisme, que parfois aussi on s'éloigne du but premier peut-être qui devrait être, quand on parle de sexualité et handicap, qui est une autonomie. On a tendance à sortir le sujet accompagnement sexuel dès qu'on parle sexualité et handicap. Ça, je trouve ça extrêmement problématique parce que, est-ce qu'on ferait la même chose avec la sexualité des valides, de parler de prostitution, de travail du sexe, dès qu'on parle de sexualité des valides, ça n'aurait aucun sens. Et c'est pour ça que je trouve important pour moi d'inclure dans ma définition de l'accompagnement sexuel les personnes valide qui requiert pour moi des accompagnements, de ne pas faire cette distinction. Et je veux aussi peut-être préciser que les escortes, dont le travail est très peu connu, même les travailleuses du sexe de rue, on a tendance à avoir l'impression qu'elles sont utilisées comme de la chair, qu'elles sont consommées tout le temps. Mais il y a énormément d'accompagnement qui se fait au sein des escortes, même s'ils n'ont pas fait de formation. Comme il y a énormément de personnes en situation de handicap qui vont voir des escortes et qui sont relativement satisfait une fois qu'ils ont trouvé le bon match, quoi.
Merci Cybèle et merci Fabrice. Peut-être que tu veux rajouter quelque chose, Fabrice ?
Non, je pense avoir tout dit.
Ok, je pourrais que tu voulais dire quelque chose. Mais merci beaucoup à vous deux d'avoir été présents pour cette émission.
Merci à toi, Damien.
Avec grand plaisir. Je pourrais vous poser encore plein de questions, mais malheureusement, nous n'avons que 30 minutes. Je vous souhaite à tous une bonne journée, chers auditeurs. La semaine prochaine, nous aurons l'occasion d'écouter des témoignages de bénéficiaires d'accompagnement sexuel et d'entendre leur discours de l'autre côté du miroir, si je puis dire. Bonne journée, chers auditeurs.
Suivez Dear Valley People sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook. N'hésitez pas à commenter, poser vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre.